Abordons maintenant le thème des relations et des conflits dans la vie professionnelle. Et tout d'abord cette question, pourquoi y a-t-il un tel enjeu dans nos relations aux autres ? Alexandre le Grand interrogea un jour des rabbins et leur demanda « La distance entre le ciel et la terre est-elle plus grande que la distance entre l'Est et l'Ouest ?» Réponse des rabbins « La distance entre le ciel et la terre est la même que la distance entre l'Est et l'Ouest. » Pourquoi une telle réponse ? Parce que si nous sommes des êtres ayant une dimension spirituelle, verticale, nous sommes aussi des êtres ayant à cultiver des relations dans l'horizontalité de notre existence. L'un ne va pas sans l'autre. D'où symboliquement cette distance égale entre le ciel et la terre d'une part, l'Est et l'Ouest d'autre part. Dans l'entreprise, nous sommes en relation avec des clients, des prestataires, des managers, des partenaires, des collègues. Donc, s'il y a un tel enjeu dans nos relations à l'autre, c'est parce que grandir spirituellement passe aussi par la qualité des relations que nous établissons avec notre entourage. Pourquoi vivons-nous de telles difficultés, de tels errements ? Pour répondre simplement à cette question complexe, c'est parce que nous sommes dans un conflit intérieur. Ce conflit se joue entre le vieil homme qui est en nous et l'homme nouveau. Ces appellations sont empruntées à l'apôtre Paul. De quoi s'agit-il ? Retranscrit dans notre contexte d'aujourd'hui, le vieil homme est notre ego ou la dimension horizontale de notre être en butte avec les réalités matérielles de notre société. L'ego permet notre intégration sociale et professionnelle et notre gestion du quotidien. Il est cependant sujet au stress, à des peurs, à des manques. L'ego, le vieil homme, est aussi porteur de l'ombre, c'est-à-dire nos pulsions, nos violences et autres éléments plus ou moins inconscients de notre psyché. Par rapport aux trois exemples bibliques cités, on peut dire qu'Ève, face au serpent, a été récupérée par son ombre, de même que les Hébreux dans le désert, de même que Pierre reniant Jésus. L'homme nouveau est notre dimension verticale, le royaume des cieux au milieu de nous. Le chemin spirituel consiste à prendre conscience de ce germe divin déposé en nous et, la grâce aidant, lui permettre de grandir. Ce conflit entre le vieil homme et l'homme nouveau se retrouve dans le témoignage suivant que m'a livré un cadre que j'accompagnais en entreprise. Il me dit la chose suivante. J'ai consacré toute ma vie à mon métier. Je m'y suis dévoué corps et âme. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de mon parcours professionnel et je constate qu'au-delà de ma réussite matérielle, ma vie a été un échec. Mes relations sont l'objet de calculs et de rapports de force. Ma femme est partie. Mes enfants me tournent le dos. J'ai pas de vrais amis. Et ma vie spirituelle est un désert. Voilà ce qu'il m'a confié désabusé. Cet homme a mis toute son énergie pour gérer des réalités économiques. Il s'est identifié à son rôle et il en perçoit amèrement les limites aujourd'hui. Probablement, le jouet des conditionnements de son histoire, de la pression sociale et des valeurs du monde, il n'a investi que dans l'horizontalité de notre univers matériel, délaissant l'être spirituel qui est en lui. Son cas me semble très représentatif de ce que vivent bon nombre de personnes qui surinvestissent leur vie professionnelle, se laissent dévorer par les soucis du quotidien ou bien s'identifient à leur réussite sociale et délaissent ainsi leur vie spirituelle. Ce témoignage illustre les propos de saint Paul selon lequel le vieil homme va se corrompant au fil des convoitises décevantes. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, nous dit Jésus. On peut voir là une invitation à équilibrer les deux pôles liés à notre double nature, matérielle et spirituelle, humaine et divine, horizontale et verticale. Celle qui procède du vieil homme et celle qui procède de l'homme nouveau. Pour y voir plus clair, dans les relations interpersonnelles, on s'appuiera sur un concept d'analyse transactionnelle appelé les positions de vie. Ce concept met en évidence que dans notre relation à l'autre, nous pouvons être dans un rapport gagnant-perdant, que nous pouvons appeler un rapport plus-moins, un rapport perdant-gagnant moins-plus, perdant-perdant moins-moins, ou gagnant-gagnant plus-plus. Ce rapport à l'autre dépend de l'état d'esprit et des attitudes de chacun. Les relations gagnant-perdant et perdant-gagnant reflètent des rapports de force qui peuvent déraper en jeu psychologique où chacun peut être alternativement dans des rôles de persécuteur, de sauveteur ou de victime. Une saine gestion des relations conflictuelles consiste à passer de relations où il y a deux perdants à une relation à deux gagnants. Voyons à cet égard quelques illustrations bibliques. Le livre de la Genèse illustre les affres de la relation à l'autre à travers des histoires de fratrie difficiles. Ces fratries peuvent être lues comme des archétypes de nos propres relations. Aussi, ces personnages bibliques peuvent être vus comme des aspects de nous-mêmes. Remarquons que dans nos histoires personnelles, nos relations avec nos frères et sœurs dans l'enfance contribuent à conditionner nos relations aux autres pendant toute notre vie. Caïn se jeta sur Abel et le tua. Caïn tue Abel car Dieu a préféré l'offrande de ce dernier à la sienne. Il s'est laissé dévorer par sa jalousie. Le premier descendant d'Adam et Ève assassine son frère. La relation entre Caïn et Abel est typiquement une relation perdant-perdant. Voilà un triste précédent pour la première fratrie de l'humanité. L'étude du texte nous montre que les deux frères ne se sont pas parlé. Il n'y a pas eu de dialogue entre les deux hommes. Des mots n'ont pas été mis sur leurs différends. C'est là aussi souvent le drame dans notre monde du travail où on s'enferme dans des non-dits qui pèsent lourd dans les relations. La relation entre Jacob et Ésaü est aussi conflictuelle. L'enjeu, le droit d'aînesse entre les deux hommes et la bénédiction du père subtilisée par Jacob. Après 20 ans d'exil, Jacob rentre en Canaan avec femme, enfants et troupeaux. Son frère l'attend avec 400 hommes pour le tuer. Jacob est dévoré par l'angoisse. La veille de la rencontre avec son frère, il lutte toute la nuit avec un homme, un ange, nous dit la tradition. À la demande de Jacob, l'ange le bénit et lui octroie un nouveau nom, Israël. Au lendemain de ce combat, la colère d'Ésaü est tombée et il accueille son frère à bras ouverts. On peut interpréter cet épisode célèbre comme illustrant le fait qu'un conflit nous fait livrer un combat intérieur. Jacob livre un combat spirituel qui l'amène à une mutation intérieure, ainsi qu'en témoigne son changement de nom. Désormais, il s'appellera Israël car il a lutté avec Dieu et avec les hommes et a triomphé. On peut dire que cet épisode symbolise que le plus grand enjeu dans nos adversités terrestres est d'ordre spirituel. Le conflit nous invite à entrer dans notre intériorité, à questionner nos certitudes, nos peurs, nos zones d'ombre et accomplir ainsi un travail de mutation. C'est ce travail intérieur qui contribue à une résolution du conflit à l'extérieur. Joseph, fils de Jacob, sera jalousé par ses frères. Ceux-ci s'emparent de lui, hésitent à le tuer et le vendent finalement à des caravaniers en route pour l'Égypte. Il est vendu comme esclave et après bien des aventures et des années de prison, il se retrouvera nommé premier ministre de Pharaon. Son discernement lui permettra de sauver le pays et tout le Moyen-Orient de la famine. Ses frères arrivent de Canaan pour demander du blé afin de ne pas mourir de faim. Après bien des péripéties, il se fera reconnaître d'eux et ils se réconcilieront. Joseph leur accordera un pardon sincère. Ainsi, de Caïn à Joseph, s'observe toute la panoplie de la relation au frère, c'est-à-dire de notre relation à l'autre, sachant qu'en hébreu, les deux mots frères et autres ont la même racine, donc d'une certaine manière le même sens. Dans le Nouveau Testament, l'épisode de la femme adultère est une belle illustration de notre relation à l'autre. Des scribes et des pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en délit d'adultère. Or, selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée, lui disent-ils. Et toi, que dis-tu ? À travers cette question, un piège est tendu à Jésus. S'il répond oui à la lapidation, il se démarque de la loi d'amour qu'il prône. S'il répond non, il risque de se mettre en porte-à-faux par rapport à la loi de Moïse. Il prend un temps de réflexion et fait cette réponse magnifique au plaignant. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Scribes et pharisiens quittent la place les uns après les autres. La question posée par Jésus les amène à revisiter leur propre vie, leur manquement par rapport à la loi. Le regard posé sur eux-mêmes désamorce leur jugement sur la femme. Ils cessent de projeter sur elle des éléments de leur ombre et ils se retirent. En parallèle à cet épisode, observons la manière dont nous pouvons être nous-mêmes prompts à fustiger l'autre, l'enfermer dans des jugements et peut-être même à en dire du mal. Prendre conscience de ce qu'on projette sur l'autre peut contribuer à désamorcer une telle attitude. La réconciliation avec l'autre est un impératif biblique. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, nous dit Jésus. Ce qui envenime le conflit ou fait obstacle à sa résolution, ce sont des facteurs comme la passion, la jalousie ou la colère. C'est l'absence de dialogue et de reconnaissance réciproque. C'est aussi la projection sur l'autre de sa propre ombre, comme nous venons de le voir. Autant d'obstacles qui appellent à faire un travail sur soi, se remettre en cause, reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui se passe, se questionner sur les racines du conflit, nommer les blessures qui sont activées en nous, surmonter l'orgueil et chercher à renouer le fil du dialogue.